Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Plongé au cœur de Nexans à Cortaillo à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le fabricant de câbles a ouvert les portes d'un site qui a également servi à la création d'Indienne par le passé. Des musiciens d'horizons multiples réunis par un projet commun, Musique et Partage revient pour un quatrième concert demain au patinoire du littoral à Neuchâtel. L'US Open est prêt à couronner sa nouvelle championne. La finale du tournoi de tennis du Grand Chelem oppose ce soir Arina Zabalenka à l'américaine Jessica Pegula. L'expérience de la Bélarusse pourrait faire la différence. Après une journée estivale, le temps s'annonce plus changeant demain, entre nuages, éclaircies et possibles averses. De la confection d'Indienne à la fabrication de câbles à l'échelle internationale, une centaine de personnes ont eu l'opportunité de visiter l'entreprise Nexans à Cortaillo dans le cadre des Journées européennes du patrimoine aujourd'hui. Le site a tout d'abord abrité une fabrique d'Indienne au XVIIIe siècle qui laissera ensuite sa place dès 1879 à l'entreprise de câbles électriques. Aujourd'hui, Nexans compte 28 000 collaborateurs à travers le monde. Ils sont 300 à Cortaillo, répartis dans 8 usines. La visite était assurée par du personnel de Nexans et par des collaborateurs de l'Office du patrimoine bâti et immatériel neuchâtelois. Reportage.
Soyez les bienvenus au nom de la direction de Nexans Suisse. On ouvre les portes d'un site qui a à peu près 270 ans d'activité, 100 ans d'indiennage, 25 ans d'horlogerie et de mécanique et aujourd'hui 145 ans cette année de câblerie. Alors je vous propose qu'on commence le déplacement pour aller à l'autre bout du site où on ira voir en premier lieu les indiennes.
Vous aviez des usines d'indiennes qui se sont implantées au XVIIIe siècle tout le long de la Reuse.
Nicole Froidevaux de l'Office du patrimoine bâti et immatériel. Son emplacement au bord de l'eau et sur le réseau d'eau et notamment sur la Reuse était très important à l'époque. Il y avait l'aspect de force hydraulique qui permettait d'actionner certaines machines qui permettaient par exemple d'aplatir les toiles. Mais il y avait aussi l'aspect de la proximité du lac et d'utilisation de l'eau claire pour le nettoyage des cotonnades qui constituent en fait les indiennes.
Bienvenue dans l'usine 1, donc la première usine construite sur le site de Cortaillo. Nous avons 300 collaborateurs sur site. Nous faisons 200 millions de chiffres d'affaires par année. L'activité principale, elle est diversifiée par la moyenne tension, haute tension, basse tension, câble à fibre optique et câble d'industrie. Vous aurez l'occasion de visiter différents ateliers qui vous montreront la construction des câbles.
David Crancladère.
Vos câbles, on les trouve un peu partout. Vous avez un ou deux exemples?
Vous pourrez les trouver dans le tunnel du Lötschberg, dans différents emplacements, à Zimmerberg, à plusieurs endroits où on a pu faire des déposes et des installations sur des câbles haute tension.
Au tout départ, on part sur l'électrification de certaines villes, notamment Paris, c'est juste?
On part sur l'électrification de Paris, effectivement, dans les années 1900. Et maintenant, on continue à électrifier les villes comme Zurich, comme Berne. Et on essaie de développer au mieux notre production pour pouvoir satisfaire nos clients au jour le jour.
Sur le site, on a pu voir des bobines de taille impressionnante. Comment vous déplacez ces objets d'une usine à l'autre sur le site?
Majoritairement, on les transporte avec nos chariots élévateurs. Mais il se peut que des fois qu'on fasse appel à nos prestataires ou partenaires qui nous fait des transports en interne, voire en externe, pour livrer nos clients sur les chantiers. Un camion qui, dans l'intérieur du site, déplace d'une usine à l'autre pour pouvoir faire le test ou le gainage au cas par cas.
Parce qu'une bobine, une des plus grandes, quelle dimension?
On est sur du 4,20 m et on est sur des charges admissibles entre 35 et 40 tonnes.
Pour terminer cette visite, ce qui est important de voir aussi, c'est le nombre de tourets qui se retrouvent à l'extérieur. On a à peu près 1500 tourets en stock qui nous permettent de livrer nos clients en temps et en heure. Et ce que je voulais marquer à la fin de notre visite, c'est les panneaux solaires qu'on a installés sur nos toits. Et on arrive à avoir une autoconsommation de 30% sur notre site, ce qui est énorme. Merci à tous pour votre visite.
Merci.
Et les Journées européennes du patrimoine se poursuivent encore demain sur le thème des réseaux, programmes en lien sur rtn.ch. La liberté célébrée en musique. Environ 140 chanteurs et musiciens se produiront au patinoire du littoral à Neuchâtel demain dès 17h à l'occasion de Musique et Partage. Pour cette quatrième édition, les organisateurs ont choisi effectivement pour thème la liberté avec quatre morceaux menus: Think d'Aretha Franklin, Freedom tiré du film Django Django Unchained, Resist de France Gall et I Want to Break Free de Queen. Les musiciens se préparent chacun de leur côté avant de se réunir le jour J. Nicolas Lefleur est un habitué de l'événement. Cet habitant d'Estavayer a décidé de se lancer au chant cette année. Pour lui, ce concert, c'est un moment d'unité. Nicolas Lefleur.
Celle de l'année dernière, c'était assez génial parce que là, on a commencé d'avoir des violons, on a commencé d'avoir des cuivres. Il y avait une contrebasse. Ça me rappelait mon enfance, piccolo et saxo avec grand-mère contrebasse qui était là au milieu. Et voilà, il y a tout ce mélange de jeunes, de vieux, de chevelus, de moins chevelus, de tatoués, de pas tatoués. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'assez extraordinaire dans ce mélange de population et de musiciens. Mais finalement, tout le monde y prend le même plaisir. Il y a une espèce d'émulation. Il y a quelque chose de très fort. Pour moi, personnellement, il y a ce petit trac du début au niveau de la répétition. Et puis après, quand c'est la dernière note à sonner, on a juste envie que ça continue.
Le concert de musique est partagé, donc prévu demain à 17h au patinoire du littoral. L'entrée est gratuite. Les amateurs de musique sont servis ce week-end puisque le chant du gros se poursuit ce soir encore au Noirmont. On se plonge dans un endroit interdit au grand public, les loges. Un grand salon et 11 pièces sont à disposition des artistes. Sébastien Berbera est en charge des lieux situés derrière la Sainte-Seine depuis 2008.
La loge principale, on va dire, celle qui est la plus belle, qui a une salle de bain privative. Et puis vous voyez donc l'espace avec toujours les canapés. Et on a de la place aussi pour qu'ils puissent mettre leurs affaires, donc les cases dans lesquelles ils ont les différents habits, les différents instruments. C'est un endroit important pour l'artiste, c'est là qu'il se concentre avant le concert.
Ah oui, donc là on a déjà quelques petits produits sur la table.
On reçoit à l'avance toujours ce qu'on appelle le catering, dans lequel on va avoir une liste de demandes. Là on voit, il y a du chocolat, de l'eau, et puis en général du miel, ça c'est quelque chose qu'ils ont tout le temps. Et puis on essaie de le disposer de manière agréable aussi pour faire un endroit chaleureux où l'artiste peut se préparer au mieux.
Des propos recueillis par Nicolas Meusy. Ce soir, Patrick Fiori et Slimane monteront notamment sur la scène du Chant du Gros. Sas commence à sortir de son isolement. Le dynamitage des blocs de roches qui entravaient l'accès à la vallée valaisanne s'est achevé aujourd'hui, mais la route cantonale reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Air Zermatt a par ailleurs évacué environ 670 personnes supplémentaires aujourd'hui. Ce pont aérien avait été mis en place hier pour les quelques 2200 personnes bloquées à la suite d'un glissement de terrain en milieu de semaine. Et en France, un homme a tué sa compagne et ses deux enfants à coups de couteau. Le drame s'est produit à Mormant, en Seine-et-Marne. L'homme a été interpellé ce matin vers 6h alors qu'il prenait à partie un passant dans la rue. Il a alors déclaré avoir tué sa famille. Ses enfants étaient âgés de 1 et 5 ans.
Sport.
Et on fait le tour de l'actualité sportive avec vous, Guillaume Joly, bonsoir.
Bonsoir Sonia.
Et puis on commence avec du cyclisme et l'étape reine du Tour de Romandie féminin qui a tenu toutes ses promesses.
Oui, parti hier de la Grande Béroche, le peloton de la boucle romande se frottait à une étape de montagne aujourd'hui entre Chipis et Vercorin. Et après 100 km et une ultime montée infernale, c'est la néerlandaise Demi Vollering qui s'est imposée pour quelques centimètres devant sa coéquipière, la belge Lotte Kopecky. Déjà deuxième hier, cette dernière peut toutefois se consoler puisqu'elle endosse le maillot jaune. Elle compte 2 secondes d'avance sur la vainqueur du jour avant l'ultime étape prévue demain au Tour de Morges. De retour dans la région, la 24e course Villeray chassera le Villeray à couronner ses deux champions. Teferra Mekonnen et Morgan Crosa ont remporté cette classique aujourd'hui. L'Éthiopien a bouclé les 25,6 km du parcours et ses 1000 mètres de dénivelé en 1h52 minutes et 57 secondes. Côté féminin, c'est donc Morgan Crosa qui a pu lever les bras après 2h11 d'effort. Des sentiers, on passe au tatami avec Neuchâtel qui vit au rythme du karaté ce week-end. Ce matin, plus de 500 athlètes ont entamé à la Riveraine 2 jours de compétition à l'occasion de la dernière manche de la Swiss Karaté League. Et le niveau est au rendez-vous puisque cette manifestation constitue la dernière opportunité de se qualifier pour les championnats de Suisse. Du côté neuchâtelois, de nombreux athlètes ont répondu présent et certains d'entre eux sont même déjà passés au niveau supérieur. Franco Pisino, coach national et responsable du Neuchâtel Karaté Do.
On a des jeunes qui se présentent aussi au niveau international. Ils vont récolter des points pour pouvoir être sélectionnables pour les compétitions qu'on appelle les compétitions officielles, comme les championnats d'Europe, championnats du monde. Et ça leur demande de se déplacer un petit peu partout. Ces gens-là sont là aujourd'hui pour une compétition nationale, mais ils sont aussi en dehors de la Suisse pour aller chercher des points pour se qualifier au monde ou aux Europes.
Le karaté a été olympique en 2020. Ça a été retiré ensuite. Finalement, c'était presque un petit cadeau empoisonné, on pourrait dire.
dire ça comme ça ?
C'est clair que pour être accepté à des Jeux Olympiques, ça demande de mettre une structure en place. Ce qu'a fait le comité donc Suisse Olympique, c'est qu'ils ont mis en place une grosse structure pour qu'on puisse s'exprimer et se qualifier pour ça. Au niveau international aussi, on a dû se plier à certaines règles et à certaines demandes du comité olympique d'organisation, en fait. Et puis, ben, ça demande une grosse structure. Ça devient une grosse machine, en fait, quoi. Et puis, ben, après, ben, on nous a retiré cette participation. Puis, on se retrouve ben, sans rien maintenant, quoi. Sans Jeux Olympiques. Pas sans rien, parce qu'il y a d'autres compétitions aussi.
À noter que les championnats de Suisse de karaté ou le Neuchâtel Karaté Do avaient cueilli 10 médailles, dont 4 titres en 2023, se tiendront à Surzée les 26 et 27 octobre prochains. Rien à faire pour Bosna Neuchâtel. Sur la pelouse du leader de deuxième ligue interrégionale, les footballeurs vaudrusiens se sont inclinés 3-1 cet après-midi. Après 4 journées, le néo-promu n'a toujours pas engrangé le moindre point et occupe logiquement la dernière place du classement. Bonne nouvelle par contre pour Colombier Volley. Le club de Liga annonce aujourd'hui par voie de communiqué avoir obtenu sa licence sans condition pour la saison 2024-2025. L'équipe des Mûriers compte également un nouveau joueur dans ses rangs. Le club annonce l'arrivée de Micha Spengler pour le prochain exercice. Le joueur de 25 ans et ses 2m02 arrive de Papyr Mulet. Une nouvelle médaille pour la Suisse aux Jeux paralympiques de Paris. La genevoise Céline Van Til a pris la deuxième place de la course sur route dans la catégorie T1-2 aujourd'hui. Elle a seulement été battue au sprint par la danoise Emma Lund. Cette performance offre une 19e médaille à la Suisse dans ses joutes parisiennes. Deux championnes pour un seul trophée. La finale de l'US Open a lieu ce soir à New York. Elle oppose la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka, à la 6e de la hiérarchie, l'américaine Jessica Pegula. La Bélarusse a l'expérience de ces rendez-vous et aura les faveurs de la cote avec elle. Mais pour s'imposer, elle devra oublier ses démons de l'année dernière. Corentin Reis.
La finale de l'US Open, Arina Sabalenka connaît. Elle s'était retrouvée au même stade de la compétition il y a une année. La Bélarusse avait d'ailleurs gagné le premier set face à Coco Gauff avant de s'effondrer contre l'américaine soutenue par 24 000 spectateurs en folie. Un an plus tard et avec un deuxième Open d'Australie gagné entre-temps, revoilà Sabalenka à deux pas du Graal. À 26 ans, elle devra à nouveau composer avec un stade soutenant son adversaire new-yorkaise. Pour elle, le titre se jouera peut-être davantage dans la tête que sur le terrain. En face, Jessica Pegula n'a rien à perdre. L'américaine de 30 ans va vivre sa première finale de Grand Chelem ce soir devant son public. Un rêve d'enfant, comme elle le décrit elle-même. Mais elle ne compte pas en rester là. Elle l'a encore rappelé, si elle est là, c'est pour gagner le titre. Expérience contre insouciance, le match est lancé.
Le premier service de cette finale dames de l'US Open aura lieu aux alentours de 22h, heure suisse.